Europe 1, historiquement vôtre. Le récit. Stéphane Bern.
Elle est une figure littéraire et artistique incontournable de la première moitié du XXe siècle qu'elle a marquée à jamais de son talent et de sa modernité. Je vous raconte maintenant la vie et l'œuvre entrelacées de celle que le désir farouche de liberté n'a pas empêché de rester éternellement prisonnière de l'emprise de sa mère, Colette. Sur une photographie que possédait Colette, on découvre, accrochée à une rue pentue de son village natal de Saint-Sauveur-en-Puisaye, en Bourgogne, la maison bourgeoise de son enfance. Cette photo, Colette a elle-même pris soin de la légender en inscrivant en haut à droite, dans une écriture délicate, la maison de Sidot. Sidot, c'est le surnom que donnait son père à sa mère et le titre que Colette donnera aussi au récit qu'elle lui dédie. Cette maison, son enfance et Sidot sont trois éléments indissociables pour l'écrivaine. De son propre aveu, sa mère a été le personnage principal de toute sa vie. Personnage, oui, car l'existence de celle qui s'appelle en réalité Sidonie Gabrielle Colette fut des plus romanesques. Son histoire commence paisiblement en Bourgogne, aux côtés de sa mère née Sidonie Landois, de son père, le capitaine Jules-Joseph Colette, de sa demi-sœur Juliette et de son demi-frère Achille, né du premier mariage de Sidot, et de son frère Léopold. Sidonie Gabrielle, que l'on appelait simplement Gabrielle, est la petite dernière de la famille. Et naturellement, elle accapare particulièrement l'attention de sa mère. Sidot a noué avec sa fille une relation complexe, un amour étouffant, une possessivité inquiète, une sévérité affectueuse et jalouse. En somme, une rivalité de femme. Colette se souvient, elle était tantôt, je cite, son joyau tout en or, sa beauté, sa petite fille incomparable, son chef-d'œuvre, tantôt un miracle de gentillesse et de fadeur, à l'air parfois bête, et ses mots doux ou incisifs prononcés par sa mère résonneront en elle tout au long de sa vie. En lisant Colette, on comprend que Sidot exerçait sur sa famille une domination naturelle. Elle en était la boussole. Sa curiosité et son insoumission la rendaient magnétique. Dans le foyer, tout gravitait autour d'elle. Ce n'est pas un hasard si la première version du texte Sidot, que Colette signe en 1929, a pour titre « Sidot ou les points cardinaux ». L'auteur écrit « Mon imagination, mon orgueil enfantin, situait notre maison au centre d'une rose de jardin, de vent, de rayon, dont aucun secteur n'échappait tout à fait à l'influence de ma mère. » Et Sidot aussi, forcément, est donc au centre de cette rose des vents. Sidot et mon enfance, l'une et l'autre, l'une par l'autre, furent heureuses, au centre de l'imaginaire étoile à huit branches. C'est sa mère qui transmet à Colette sa sensibilité à la nature, thème si présent dans le texte de Sidot. Sa mère qui cachait, selon les mots de l'écrivaine, derrière son visage quotidien, un visage sauvage. Qui lisait l'heure dans la position du soleil ou le parfum des plantes, qui pouvait prédire si l'hiver serait rude en observant le comportement des écureuils, des tortues et des chats, qui refusait de couper les fleurs chéries de son jardin, même pour décorer une tombe. Malgré l'admiration qu'elle lui portait, le récit hommage de Colette à Sidot, teinté de poésie et de crainte, n'a pas été évident à écrire. Aux prémices de sa carrière littéraire, la figure maternelle est d'ailleurs absente des œuvres de Colette. Dans la série très populaire des Claudine, l'héroïne est orpheline de mère. Une manière pour l'auteur, sans doute, de se libérer de l'emprise de la sienne après s'en être déjà éloignée, en se mariant à 20 ans avec Henri Gauthier-Villars, surnommé Willy, puis en le suivant à Paris. Après s'être échappée du giron de sa mère, c'est dans les filets de Willy que Colette se débat désormais. Après le succès du premier Claudine à l'école, publié en 1900, et dont il s'est éhontément approprié la paternité, cet écrivain mondain, mari infidèle et industriel né, la convainc d'en rédiger la suite. S'exécutant avec talent, Colette écrit successivement Claudine à Paris, Claudine en ménage, puis Claudine s'en va. Oui, Claudine s'en va, et elle n'est pas la seule. Ce dernier tome, toujours signé par Willy, paraît en 1903, alors que Colette s'apprête à prendre son envol à tout juste 30 ans. Ainsi, l'année suivante, c'est sous le nom de Colette Willy qu'elle publie « Dialogue de bête ». Une page se tourne. Non seulement la fille de Sidot se libère en tant qu'écrivaine, mais elle s'affirme aussi en tant que femme, puisque c'est en 1909 qu'elle rencontre Mathilde Morny, une femme, oui, surnommée Missy, avec qui elle vivra une histoire d'amour jusqu'en 1911. Cette indépendance à laquelle goûte Colette se concrétise véritablement lorsqu'elle divorce officiellement de Willy en 1910. À 37 ans, la voici enfin rattrapée par une volonté féroce de liberté qu'elle ne peut tenir que de Sido qui, selon sa fille, avait ce besoin de n'obéir qu'à une loi écrite par elle seule, pour elle seule. Afin de gagner sa vie, et avec comme partenaire le célèbre mime Georges Vague, Colette entame alors une carrière dans le music-hall qu'elle raconte dans le livre « La Vagabonde ». Sous les traits du personnage de René Néré, elle y décrit dans un style rythmé et imagé la solitude d'une femme de lettres qui a mal tourné. La même année, en parallèle de sa vie sur les planches, elle démarre une activité journalistique au quotidien Le Matin. C'est là qu'elle rencontre son deuxième mari, un homme, oui, son rédacteur en chef, le charismatique baron Henri de Jouvenel, qu'elle surnomme Sidi. À l'époque, toujours pas de traces de sa mère dans les récits de Colette, mais l'année même de ses secondes noces, en 1912, un événement va venir semer les premières graines qui germeront 17 ans plus tard dans l'esprit de l'auteur à succès pour donner naissance à son récit dédié à Sido, son décès. Il fallait que le personnage principal de sa vie meure pour qu'elle lui consacre enfin un roman. Colette a beau avoir manqué les funérailles de sa mère, ses souvenirs d'enfance s'imposent peu à peu à sa mémoire, malgré elle, après la disparition de Sido. Et sa plume, 10 ans plus tard, a fini par se tourner vers le passé et sa province natale. Sido apparaît ainsi explicitement dans La maison de Claudine, parue en 1922. Cet ouvrage, au titre trompeur, où il est davantage question des aventures de l'auteur que de celles de Claudine, se divise en plusieurs textes courts dont les titres parlent d'eux-mêmes. « Ma mère et les livres »,« Ma mère et les bêtes »,« Ma mère et la morale », Où sont les enfants, etc. À ce premier livre de souvenirs familiaux succède donc, en 1929, Sido. Un court récit dans lequel Colette se remémore quelques paroles témoignant de la personnalité de sa mère et la revoit dans le jardin de leur maison de Saint-Sauveur en Puisaye, raillant les Parisiens et louant la beauté de sa province auprès de sa fille. Colette y ajoute l'année suivante deux autres parties respectivement intitulées « Le capitaine », en référence à son père, et « Les sauvages », pour désigner ses deux frères. À partir des années 20, Colette aborde ainsi des sujets plus intimes. Chérie, publié en 1920 et qui sera adapté au théâtre, puis Le blé en herbe, qui paraît en 1923, s'inspire de ses relations avec des hommes plus jeunes, parmi lesquels Bertrand de Jouvenel, le fils de son mari, dont elle ne tarde pas à se séparer. Le blé en herbe est aussi la première œuvre qu'elle signe enfin du seul nom Colette, et non plus Colette Willy. À 50 ans, l'écrivaine entame alors le troisième et dernier chapitre de sa vie. Elle le partage avec Maurice Goutquet, qu'elle rencontre en 1925 et qu'elle épouse 10 ans plus tard. C'est avec lui qu'elle termine ses jours après l'avoir sauvé du génocide juif grâce à sa notoriété. Présidente de l'Académie Goncourt depuis 1949, Colette meurt 5 ans plus tard, le 3 août 1954, à 81 ans, avec tous les honneurs. Elle est en effet la première Française à avoir droit à des funérailles nationales. Elle qui s'était longuement appliquée à ressusciter les morts sous sa plume, ceux de sa famille mais aussi sa chère amie Marguerite Moreno dans Le Fanal Bleu, publié en 1949, le dernier livre qu'elle a écrit avant d'être paralysée par l'arthrite. Quant à savoir quelle est la part de vérité dans sa prose, si je me trompe, laissez-moi errer, nous prie Colette dans Sido. Peut-être consciente que le regard qu'elle pose sur sa mère est celui subjectif de sa fille.